Chapitre 5. Bientôt, toute la partie sud-est de la Pologne fut en proie à la terreur. On entendait répéter partout « Les Zaporogues! Les Zaporogues arrivent !» Tous ceux qui pouvaient fuir, fuyaient. Chacun quittait ses foyers. Alors, précisément, dans cette contrée de l'Europe, on n'élevait ni forteresse ni château. Chacun se construisait à la hâte quelques petites habitations couvertes de chaume, pensant qu'il ne fallait perdre ni son temps ni son argent à bâtir des demeures qui seraient tôt ou tard la proie des invasions. Tout le monde se mit en émoi. Celui-ci échangeait ses bœufs et sa charrue contre un cheval et un mousquet pour aller servir dans les régiments. Celui-là cherchait un refuge avec son bétail, emportant tout ce qu'il pouvait enlever. Quelques-uns essayaient bien une résistance toujours vaine, mais la plus grande partie fuyait prudemment. Tout le monde savait qu'il n'était pas facile d'avoir affaire avec cette foule aguerrie au combat, connue sous le nom d'armée Zaporogue, qui, malgré son organisation irrégulière, conservait dans la bataille un ordre calculé. Pendant la marche, les hommes à cheval s'avançaient lentement, sans surcharger, sans fatiguer leurs montures. Les gens de pied suivaient en bon ordre les chariots, et tout le tabord ne se mettait en mouvement que la nuit, prenant du repos le jour et choisissant pour ses haltes des lieux déserts ou des forêts plus vastes encore et plus nombreuses qu'aujourd'hui. On envoyait en avant des éclaireurs et des espions pour savoir où et comment se diriger. Souvent, les Cosaques apparaissaient dans les endroits où ils étaient le moins attendus. Alors tout ce qui était vivant disait adieu à la vie. Des incendies dévoraient les villages entiers. Les chevaux et les bœufs qu'on ne pouvait emmener étaient tués sur place. Les cheveux se dressent d'horreur quand on pense à toutes les atrocités que commettaient les Zaporogues. On massacrait les enfants, on coupait les seins aux femmes. Au petit nombre de ceux qu'on laissait en liberté, on arrachait la peau du genou jusqu'à la plante des pieds. En un mot, les Cosaques acquittaient en une seule fois toute leur vieille dette. Le prélat de monastère, qui eut connaissance de leur approche, envoya deux de ses moines pour leur représenter qu'il y avait paix entre le gouvernement polonais et les Zaporogues, qu'ainsi ils violaient leurs devoirs envers le roi et tout droit des gens. « Dites à l'abbé de ma part et de celle de tous les Zaporogues, répondit le cochevoy, qu'il n'a rien à craindre, mes Cosaques ne font encore qu'allumer leurs pipes. » Et bientôt la magnifique abbaye fut tout entière livrée aux flammes, et les colossales fenêtres gothiques semblaient jeter des regards sévères à travers les ondes lumineuses de l'incendie. Des foules de moines fugitifs, de juifs, de femmes s'entassèrent dans les villes entourées de murailles qui avaient garnison. Les secours tardifs envoyés par le gouvernement de loin en loin et qui consistaient en quelques faibles régiments où ne pouvaient découvrir les Cosaques ou s'enfuyaient au premier choc sur leurs chevaux rapides. Il arrivait aussi que des généraux du roi, qui avaient triomphé dans maintes affaires, se décidaient à réunir leurs forces et à présenter la bataille aux Zaporogues. C'était de pareilles rencontres qu'attendaient surtout les jeunes Cosaques qui avaient honte de piller ou de vaincre des ennemis sans défense et qui brûlaient du désir de se distinguer devant les anciens en se mesurant avec un Polonais hardi et fanfaron monté sur un beau cheval et vêtu d'un riche jupon dont les manches pendantes flottaient au vent. Ces combats étaient recherchés par eux comme un plaisir, car ils y trouvaient l'occasion de faire un riche butin de sabres, de mousquets et de harnais de chevaux. De jeunes hommes au menton imberbe étaient devenus en un mois des hommes faits. Les traits de leur visage, où s'était jusque-là montré une mollesse juvénile, avaient pris l'énergie de la force. Le vieux Taras était ravi de voir que partout ses fils marchaient au premier rang. Évidemment, la guerre était la véritable vocation d'Ostape. Sans jamais perdre la tête, avec un sang-froid presque surnaturel dans un jeune homme de 22 ans, Il mesurait d'un coup d'œil l'étendue du danger, la vraie situation des choses, et trouvait sur le champ le moyen d'éviter le péril, mais de l'éviter pour le vaincre avec plus de certitude. Toutes ces actions commencèrent à montrer la confiance en soi, la fermeté calme, et personne ne pouvait méconnaître en lui un chef futur. « Bon, ce sera avec le temps un bon polkovnik, » disait le vieux Taras. « Devant Dieu, ce sera un bon polkovnik, et il surpassera son père. » Pour Andri, il se laissait emporter au charme de la musique des balles et des sabres. Il ne savait pas ce que c'était que réfléchir, calculer, mesurer ses forces et celles de l'ennemi. Il trouvait une volupté folle dans la bataille. Elle lui semblait une fête. À ces instants où la tête du combattant brûle, où tout se confond à ses regards, où les hommes et les chevaux tombent pêle-mêle avec fracas, où ils se précipitent tête baissée à travers le sifflement des balles, frappant à droite et à gauche, sans ressentir les coups qui lui sont portés. Plus d'une fois, le vieux Taras eut l'occasion d'admirer Andri lorsque, emporté par sa fougue, il se jetait dans des entreprises que n'eût tenté nul homme de sang-froid et réunissait justement par l'excès de sa témérité. Le vieux Taras l'admirait alors et répétait souvent « Oh, celui-là est un brave !» Que le diable ne l'emporte pas, c'est pas au stap, mais c'est un brave. Il fut décidé que l'armée marcherait tout droit sur la ville de Douvno, où, d'après le bruit public, les habitants avaient renfermé beaucoup de richesses. L'intervalle fut parcouru en un jour et demi, et les apologues parurent inopinément devant la place. Les habitants avaient résolu de se défendre jusqu'à la dernière extrémité, préférant mourir sur le seuil de leur demeure que de laisser entrer l'ennemi dans leurs murs. Une haute muraille en terre entourait toute la ville. Là où elle était trop basse, s'élevait un parapet en pierre ou une maison crénelée ou une forte palissade en pieux de chêne. La garnison était nombreuse et sentait toute l'importance de son devoir. À leur arrivée, les aporogues attaquèrent vigoureusement les ouvrages extérieurs, mais ils furent reçus par la mitraille. Les bourgeois, les habitants ne voulaient pas non plus rester oisifs et se tenaient en armée sur les remparts. On pouvait voir à leur contenance qu'ils se préparaient à une résistance désespérée. Les femmes même prenaient part à la défense. Des pierres, des sacs de sable, des tonneaux de résine enflammés tombait sur la tête des assaillants. Mais Zaporog n'aimait pas avoir affaire aux forteresses, et ce n'était pas dans les assauts qu'il brillait. Le Kochevoy ordonna donc la retraite en disant « De rien, seigneur frère, décidons-nous à reculer. Mais que je sois un maudit tatar et non pas un chrétien, si nous laissons sortir un seul habitant, qu'ils meurent tous de faim comme des chiens. » Après avoir battu en retraite, l'armée bloqua étroitement la place, et n'ayant rien d'autre chose à faire, les Cosaques se mirent à ravager les environs, à brûler les villages et les meules de blé, à lancer leurs chevaux dans les moissons encore sur pied, et qui cette année-là avaient récompensé les soins du laboureur par une riche croissance. Du haut des murailles, les habitants voyaient avec terreur la dévastation de toutes leurs ressources. Cependant, les Aporogues, disposés en Kourénie comme à la Sech, avaient entouré la ville d'un double rang de chariots. Ils fumaient leurs pipes, échangeaient entre eux les armes prises à l'ennemi et jouaient aux saute-boutons à pair et impair, regardant la ville avec un sang-froid désespérant. Et pendant la nuit, les feux s'allumaient. Chaque couronne faisait bouillir son gruau dans d'énormes chaudrons de cuivre. Une garde vigilante se succédait auprès des feux. Mais bientôt, les aporogues commencèrent à s'ennuyer de leur inaction et surtout de leur sobriété forcée dont nulle action d'éclat ne les dédommageait. Le Kochevoy ordonna même de doubler la ration de vin ce qui se faisait quelquefois dans l'armée quand il n'y avait pas d'entreprise à tenter. C'était surtout aux jeunes gens, et notamment aux fils de Boulba, que déplaisait une pareille vie. Andry ne cachait pas son ennui. D'être sans cervelle, lui disait souvent Talas. Souffre, Cosaque, tu deviendras Hetmans. Celui-là n'est pas encore un bon soldat qui garde sa présence d'esprit dans la bataille. Mais celui-là est un bon soldat qui ne s'ennuie jamais, qui sait souffrir jusqu'au bout et quoi qu'il arrive, finit par faire ce qu'il a résolu. Mais un jeune homme ne peut avoir l'opinion d'un vieillard, car il voit les mêmes choses avec d'autres yeux. Sur ces entrefaites, arriva le polk de Taras Bulba, mené par Toukatch. Il était accompagné de deux Yessaouls, d'un greffier et d'autres chefs, conduisant une troupe d'environ 4000 hommes. Dans ce nombre se trouvaient beaucoup de volontaires, qui, sans être appelés, avaient pris librement du service dès qu'ils avaient connu le but de l'expédition. Les Yessaouls apportaient aux fils de Taras la bénédiction de leur mère, et à chacun d'eux une petite image en bois de cyprès, prise au célèbre monastère de Mejigorsk à Kiev. Les deux frères se pendirent les saintes images au cou, et devinrent tous les deux pensifs en songeant à leur vieille mère. Que leur prophétisait cette bénédiction? La victoire sur l'ennemi, suivie d'un joyeux retour dans la patrie avec du butin, et surtout de la gloire, digne d'être éternellement chantée par les joueurs de bandoura, ou bien... Mais l'avenir est inconnu. Il se tient devant l'homme, semblable à l'épais brouillard d'automne qui s'élève des marais. Les oiseaux le traversent éperdument, sans se reconnaître, la colombe sans voir l'épervier sans voir la colombe, et pas un d'eux ne sait s'il est près ou loin de sa fin. Après la réception des images, Ostap s'occupa de ses affaires de chaque jour et se retira bientôt dans son couren. Pour Andry, il ressentait involontairement un serrement de cœur. Les Cosaques avaient déjà pris leur souper. Le soir venait de s'éteindre, une belle nuit d'été remplissait l'air. Mais Andry ne rejoignait pas son couren et ne pensait point à dormir. Il était plongé dans la contemplation du spectacle qu'il avait sous les yeux. Une innombrable quantité d'étoiles jetait du haut du ciel une lumière pâle et froide. La plaine, dans une vaste étendue, était couverte de chariots dispersés que chargeaient les provisions et le butin, et sous lesquels pendaient les seaux à porter le goudron. Autour et sous les chariots se voyaient des groupes de Zaporog étendus dans l'herbe. Ils dormaient dans toutes sortes de positions. L'un avait mis un sac sous sa tête, l'autre son bonnet. Celui-ci s'appuyait sur le flanc de son camarade. Chacun portait à sa ceinture un sabre, un mousquet, une petite pipe en bois, un briquet et des poinçons. Les bœufs pesants étaient couchés, les jambes pliées, en troupes blanchâtres, et ressemblaient de loin à de grosses pierres immobiles, éparses dans la plaine de tous côtés, et s'élevaient des sourds ronflements de soldats endormis, auxquels répondaient par des hennissements sonores les chevaux qu'indignaient leurs entraves. Cependant, une lueur solennelle et lugubre ajoutait encore à la beauté de cette nuit de juillet. C'était le reflet de l'incendie des villages d'alentour. Ici, la flamme s'étendait large et paisible sur le ciel. Là, trouvant un aliment faible, elle s'élançait en mince tourbillon jusque sous les étoiles. Des lambeaux enflammés se détachaient pour se traîner et s'éteindre au loin. De ce côté, un monastère aux murs noircis par le feu se tenait sombre et grave comme un moine encapuchonné, montrant à chaque reflet sa lugubre grandeur. De cet autre brûlait le grand jardin du couvent. On croyait entendre le sifflement des arbres que tordait la flamme, et quand au sein de l'épaisse fumée jaillissait un rayon lumineux, il éclairait de sa lueur violâtre des masses de prunes pûries, et échangeait en or de ducats des poires qui jaunissaient à travers le sombre feuillage. D'une et d'autre part, pendaient aux créneaux ou aux branches quelques moines ou quelques malheureux juifs dont le corps se consumait avec tout le reste. Une quantité d'oiseaux s'agitait devant la nappe de feu, et de loin semblaient autant de petites croix noires. La ville dormait, dégarnie de défenseurs. Les flèches des temples, les toits des maisons, les créneaux des murs et les pointes des palissades s'enflammaient silencieusement du reflet des incendies lointains. Andry parcourait les rangs des Cosaques. Les feux autour desquels s'asseyaient les gardes ne jetaient plus que de faibles clartés, et les gardes eux-mêmes se laissaient aller au sommeil après avoir largement satisfait leur appétit cosaque. Il s'étonna d'une telle insouciance, pensant qu'il était fort heureux qu'on n'eût pas d'ennemis dans le voisinage. Enfin, il s'approcha lui-même de l'un des chariots, grimpa sur la couverture et se coucha, le visage en l'air, en mettant ses mains jointes sous sa tête. Mais il ne put s'endormir et demeura longtemps à regarder le ciel. L'air était pur et transparent. Les étoiles qui forment la Voie lactée étincelaient d'une lumière blanche et confuse. Par moments, Andry s'assoupissait, et le premier voile du sommeil lui cachait la vue du ciel, qui reparaissait de nouveau. Tout à coup, il lui sembla qu'une étrange figure se dessinait rapidement devant lui. Croyant que c'était une image créée par le sommeil et qui allait se dissiper, il ouvrit les yeux davantage. Il aperçut effectivement une figure pâle, exténuée, qui se penchait sur lui et le regardait fixement dans les yeux. Des cheveux longs et noirs, comme du charbon, s'échappaient en désordre d'un voile sombre négligemment jeté sur la tête, et l'éclat singulier du regard, le teint cadavéreux du visage, pouvait bien faire croire à une apparition. Andry saisit à la hâte son bousquet et s'écria d'une voix altérée « Qui es-tu ? Si tu es un esprit malin, disparais. Si tu es un être vivant, tu as mal pris le temps de rire, je vais te tuer !» Pour toute réponse, l'apparition mit le doigt sur ses lèvres, semblant implorer le silence. Andry déposa son mousquet et se mit à la regarder avec plus d'attention. À ses longs cheveux, à son cou, à sa poitrine demi-nue, il reconnut une femme. Mais ce n'était pas une Polonaise. Son visage hâve et décharné avait un teint olivâtre. Les larges pommettes de ses joues s'avançaient en saillie et les paupières de ses yeux étroits se relevaient aux angles extérieurs. Plus il contemplait les traits de cette femme, plus il y trouvait le souvenir d'un visage connu. « Mais dis-moi qui tu es !» s'écria-t-il enfin. « Il me semble que je t'ai vu quelque part. »« Oui, il y a 2 ans à Kiev. » « Il y a 2 ans à Kiev !» répéta Andry en repassant dans sa mémoire tout ce que lui rappelait sa vie d'étudiant. Il la regarda encore une fois avec une profonde attention, puis il s'écria tout à coup « Tu es la Tatar, la servante de la fille du Vaïvode !»« Chut !» dit-elle en croisant ses mains avec une angoisse suppliante, tremblante de peur. et regardant de tous côtés si le cri d'André n'avait réveillé personne. « Mais réponds, comment et pourquoi es-tu ici ?» disait André d'une voix basse et haletante. « Où est la demoiselle? Est-elle en vie ?»« Elle est dans la ville. » « Dans la ville ?» reprit André, retenant à peine un cri de surprise, et sentant que tout son sang lui refluait au cœur. « Mais pourquoi dans la ville ?»«
Parce que le vieux seigneur y est lui-même. Voilà un an et demi qu'il a été fait vaïvode de Doubno. »«
Est-elle mariée ? Mais parle donc, parle donc !»«
Voilà 2 jours qu'elle n'a rien mangé. »«
Comment ?»
« Il n'y a plus un morceau de pain dans la ville, et depuis plusieurs jours, les habitants ne mangent que de la terre. »
André fut pétrifié.
« La demoiselle t'a vu du parapet avec les autres aporogues. Elle m'a dit, « Va, dis au chevalier, s'il se souvient de moi, qu'il vienne me trouver, sinon qu'il te donne au moins un morceau de pain pour ma vieille mère, car je ne veux pas la voir mourir sous mes yeux. » « Prie-le, embrasse ses genoux. Il a aussi une vieille mère qui te donne du pain pour l'amour d'elle. »
Une foule de sentiments divers s'éveillèrent dans le cœur du jeune Cosaque. « Mais comment as-tu pu venir ici ? » ?»«
Par un passage souterrain. »
« Y a-t-il donc un passage souterrain ?»«
Oui. » »«
Où ?»
« Tu ne nous trahiras pas, chevalier. »«
Non, je le jure sur la Sainte Croix. »
En descendant le ravin et en traversant le ruisseau à la place où croisent des joncs.
« Et ce passage aboutit dans la ville ?»«
Oui, tout droit au monastère. »
« Allons, allons sur le champ. »«
Mais au nom du Christ et de sa Sainte Mère, un morceau de pain. »
« Bien, je vais t'en apporter. Tiens-toi près du chariot, ou plutôt couche-toi dessus. Personne ne te verra, tous dorment. Je reviens à l'instant. » Et il se dirigea vers les chariots où se trouvaient les provisions de son couraine. Le cœur lui battait avec violence. Tout ce qu'avait effacé sa vie rude et guerrière de Cosaque, tout le passé renaquit aussitôt, et le présent s'évanouit à son tour. Alors reparut à la surface de sa mémoire une image de femme avec ses beaux bras, sa bouche souriante, ses épaisses nasses de cheveux. Non, cette image n'avait jamais disparu pleinement de son âme, mais elle avait laissé place à d'autres pensées plus mâles et souvent encore, elle troublait le sommeil du jeune Cosaque. Il marchait, et ses battements de cœur devenaient de plus en plus forts à l'idée qu'il la verrait bientôt, et ses genoux tremblaient sous lui. Arrivé près des chariots, il oublia pourquoi il était venu, et se passa la main sur le front en cherchant à se rappeler ce qui l'amenait. Tout à coup, il tressaillit, plein d'épouvante à l'idée qu'elle se mourrait de faim. Il s'empara de plusieurs pains noirs, mais la réflexion lui rappela que cette nourriture bonne pour le zaporogue serait pour elle trop grossière. Il se souvint alors que la veille, le Kochevoy avait reproché au cuisinier de l'armée d'avoir employé à faire du gruau toute la farine de blé noir qui restait, tandis qu'elle devait suffire pour 3 jours. Assuré donc qu'il trouverait du gruau tout préparé dans les grands chaudrons, André prit une petite casserole de voyage appartenant à son père et alla trouver le cuisinier de son couraine qui dormait étendu entre 2 marmites sous lesquelles fumait encore la cendre chaude. À sa grande surprise, il les trouva vides l'une et l'autre. Il avait fallu des forces surhumaines pour manger tout ce gruau, car son couraine comptait moins d'hommes que les autres. Il continua l'inspection des autres marmites et ne trouva rien nulle part. Involontairement, il se rappela le proverbe « Les aporogues sont comme les enfants, s'il y a peu, ils s'en contentent, s'il y a beaucoup, ils ne laissent rien. » Que faire ?
Il y avait sur le chariot de son père un sac de pain blanc qu'on avait pris au pillage d'un monastère. Il s'approcha du chariot, mais le sac n'y était plus. Ostap l'avait mis sous sa tête et ronflait étendu par terre. Andri saisit le sac d'une main et l'enleva brusquement. La tête d'Ostap frappa sur le sol et lui-même, se dressant à demi éveillé, s'écria sans ouvrir les yeux. « Arrêtez, arrêtez le polonais du diable, attrapez son cheval !»« Tais-toi ou je te tue !» s'écria Andri plein d'épouvante en le menaçant dans son sac. Mais Ostap s'était tu déjà. Il retomba sur la terre et se remit à ronfler de manière à agiter l'herbe que touchait son visage. Andri regarda avec terreur de tous côtés. Tout était tranquille. Une seule tête à la toux flottante s'était soulevée dans le couren voisin, mais après avoir jeté de vagues regards, elle s'était reposée sur la terre. Au bout d'une courte attente, il s'éloigna en portant son butin. La tatare était couchée, respirant à peine. « Lève-toi, lui dit-il, allons, tout le monde dort, ne crains rien. Es-tu en état de soulever un de ces pains, si je ne puis les emporter tous moi-même ?» Il mit le sac sur son dos, en prit un second plein de millet qu'il enleva d'un autre chariot, saisit dans ses mains les pains qu'il avait voulu donner à la tatare, et, courbé sous ce poids, il passa intrépidement à travers les rangs des apologues endormis. « Andri !» dit le vieux Boulba au moment où son fils passa devant lui. Le cœur du jeune homme se glaça. Il s'arrêta et tout tremblant répondit à voix basse. « Eh bien quoi ?» « Tu as une femme avec toi. Oh, sur ma parole, je te rosserai demain matin, d'importance. Les femmes ne nous mèneront à rien de bon. » Après avoir dit ces mots, il souleva sa tête sur sa main et considéra attentivement la tatare enveloppée dans son voile. Andri se tenait immobile, plus mort que vif, sans oser regarder son père en face. Quand il se décida à lever enfin les yeux, il reconnut que Boulba s'était endormi, la tête sur la main. Il fit le signe de croix. Son effroi se dissipa plus vite qu'il n'était venu. Quand il se retourna pour s'adresser à la tatare, il la vit devant lui, immobile comme une sombre statue de granit, perdue dans son voile, et le reflet d'un incendie lointain éclaira tout à coup ses yeux, hagards, comme ceux d'un moribond. Il la secoua par la manche, et tous deux s'éloignèrent en regardant fréquemment derrière eux. Ils descendirent dans un ravin, au fond duquel se traînait paresseusement un ruisseau bourbeux, tout couvert de joncs croissant sur des mottes de terre. Une fois au fond du ravin, la plaine, avec le tabor des aporogues, disparut à leur regard. En se retournant, Andri ne vit plus rien qu'une côte escarpée, au sommet de laquelle se balançaient quelques herbes sèches et fines, et par-dessus brillait la lune, semblable à une faucille d'or. Une brise légère, soufflant de la steppe, annonçait la prochaine venue du jour. Mais nulle part on entendait le chant d'un coq. Depuis longtemps on ne l'avait entendu ni dans la ville ni dans les environs dévastés. Ils franchirent une poutre posée sur le ruisseau et devant eux se dressa l'autre bord, plus haute encore et plus escarpée. Cet endroit passait sans doute pour le mieux fortifié de toute l'enceinte par la nature, car le parapet en terre qui le couronnait était plus bas qu'ailleurs, et l'on n'y voyait pas de sentinelles. Un peu plus loin s'élevaient les épaisses murailles du couvent. Toute la côte devant eux était couverte de bruyères. Entre elle et le ruisseau, S'étendait un petit plateau où croissaient les joncs de hauteur d'homme. Le tatar ôta ses souliers et s'avança avec précaution en soulevant sa robe parce que le sol mouvant était imprégné d'eau. Après avoir conduit péniblement Andri à travers les joncs, elle s'arrêta devant un grand tas de branches sèches et quand ils les eurent écartées, ils trouvèrent une espèce de voûte souterraine dont l'ouverture n'était pas plus grande que la bouche d'un four. La tatare y entra la première, la tête basse. Andri la suivit, en se courbant aussi bas que possible pour faire passer ses sacs et ses pains, et bientôt, tous deux, se trouvèrent dans une complète obscurité. Chapitre 6. Andri s'avançait péniblement dans l'étroit et sombre souterrain, précédé de la tatare et coupé sous ses sacs de provisions. « Bientôt nous pourrons voir, lui dit sa conductrice, nous approchons de l'endroit où j'ai laissé une lumière. » En effet, les noires murailles du souterrain commençaient à s'éclairer peu à peu. Ils atteignirent une petite plateforme qui semblait être une chapelle, car à l'un des murs était adossée une table en forme d'autel, surmontée d'une vieille image noircie de la Madone catholique. Une petite lampe en argent, suspendue devant cette image, l'éclairait de sa lueur pâle. La tatare se baissa, ramassa de terre son chandelier de cuivre, dont la tige longue et mince était entourée de chaînettes auxquelles pendaient des mouchettes, un éteignoir et un poinçon. Elle le prit et alluma la chandelle au feu de la lampe. Tous deux continuèrent leur route, à demi dans une demi-vive lumière, à demi dans une ombre noire, comme les personnages d'un tableau de Gérard Dell'Enotti. Le visage du jeune chevalier, où brillaient la santé et la force, formait un frappant contraste avec celui de la tatare, pâle et exténuée. Le passage devint insensiblement plus large et plus haut, de manière qu'Andri put relever la tête. Il se mit à considérer attentivement les parois en terre du passage où il cheminait. Comme au souterrain de Kiev, on y voyait des enfoncements que remplissaient tantôt des cercueils, tantôt des ossements épars que l'humidité avait rendus mous comme de la pâte. Là aussi gisait le saint Anachorète qui avait fui le monde et ses séductions. L'humidité y était si grande en certains endroits qu'ils avaient de l'eau sous les pieds. Andri devait s'arrêter souvent pour donner du repos à sa compagne, dont la fatigue se renouvelait sans cesse. Un petit morceau de pain qu'elle avait dévoré causait une vive douleur à son estomac, déshabitué de nourriture, et fréquemment elle s'arrêtait sans pouvoir quitter la place. Enfin, une petite porte en fer apparut devant eux. « Grâce à Dieu, nous sommes arrivés !» dit la tatare d'une voix faible, et elle leva la main pour frapper, mais la force lui manqua. À sa place, Andri frappa vigoureusement sur la porte, qui retentit de manière à montrer qu'il y avait par derrière un large espace vide. Puis le son changea de nature, comme s'il se fût prolongé sous de hauts arceaux. 2 minutes après, on entendit bruire un trousseau de clés et quelqu'un qui descendait les marches d'un escalier tournant. La porte s'ouvrit. Un moine, qui se tenait debout, la clé dans une main, une lumière dans l'autre, leur livra passage. Andri recula involontairement à la vue d'un moine catholique, objet de mépris et de haine pour les Cosaques, qui les traitaient encore plus inhumainement que les Juifs. Le moine, de son côté, recula de quelques pas en voyant un Zaporog. Mais un mot que lui dit la tatare à voix basse, le tranquillisa. Il referma la porte derrière lui, les conduisit par l'escalier, et bientôt ils se trouvèrent sous les hautes et non sombres voûtes de l'église. Devant l'un des autels tout chargés de cierges, se tenait un prêtre à genoux qui priait à voix basse. À ses côtés étaient agenouillés deux jeunes diacres en chasubles violettes ornées de dentelles blanches et des encensoirs dans les mains. Ils demandaient un miracle, la délivrance de la ville, l'affermissement des courages ébranlés, le don de la patience, la fuite du tentateur qui les faisait murmurer, qui leur inspirait des idées timides et lâches. Quelques femmes, semblables à des spectres, étaient agenouillées aussi, laissant tomber leurs têtes sur les dossiers des bancs de bois et des prie-dieu. Quelques hommes restaient appuyés contre les pilastres dans un silence morne et découragé. La longue fenêtre aux vitres au pin qui surmontait l'autel s'éclaira tout à coup des lueurs rosées de l'aube naissante, et des rosaces rouges, bleues, de toutes couleurs, se dessinèrent sur le sombre pavé de l'église. Tout le chœur fut inondé de jour, et la fumée de l'encens, immobile dans l'air, se peignit de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. De son coin obscur, Andri contemplait avec admiration le miracle opéré à la lumière. Dans cet instant, le mugissement solennel de l'orgue emplit tout à coup l'église entière. Il enfla de plus en plus les sons, éclata comme le roulement du tonnerre, puis monta sous les nefs en sons argentins comme des voix de jeunes filles, puis répéta son mugissement sonore et se tut brusquement. Longtemps après, les vibrations firent trembler les arceaux, et Andri resta dans l'admiration de cette musique solennelle. Quelqu'un le tira par le pan de son cafetan. « Il est temps !» dit la Tartare. Tous deux traversèrent l'église sans être aperçus et sortirent sur une grande place. Le ciel s'était rougi des feux de l'aurore et tout présageait le lever du soleil. La place, en forme de carré, était complètement vide. Au milieu d'elle se trouvaient dressées nombre de tables en bois qui indiquaient que là avait été le marché aux provisions. Le sol, qui n'était point pavé, portait une épaisse couche de boue desséchée, et toute la place était entourée de petites maisons bâties en briques et en terre glaise, dont les murs étaient soutenus par des poutres et des solives entrecroisées. Leurs toits aigus étaient percés de nombreuses lucarnes. Sur un des côtés de la place, près de l'église, s'élevait un édifice différent des autres et qui paraissait être l'hôtel de ville. La place entière semblait morte. Cependant, Andri crut entendre de légers gémissements. Levant un regard autour de lui, il aperçut un groupe d'hommes couchés sans mouvement et les examina, doutant s'ils étaient endormis ou morts. À ce moment, il trébucha sur quelque chose qu'il n'avait pas vu devant lui. C'était le cadavre d'une femme juive. Elle paraissait jeune, malgré l'horrible contraction de ses traits. Sa tête était enveloppée d'un mouchoir de soie rouge. Deux rangs de perles ornaient les attaches pendantes de son turban. Quelques mèches de cheveux crépus tombaient sur son cou décharné. Près d'elle était couché un petit enfant qui serrait convulsivement sa mamelle, qu'il avait tordue à force d'y chercher du lait. Il ne criait ni ne pleurait plus. Ce n'était qu'au mouvement intermittent de son ventre qu'on reconnaissait qu'il n'avait pas encore rendu le dernier soupir. Au tournant d'une rue, ils furent arrêtés par une sorte de fou furieux qui, voyant le précieux fardeau que portait Henri, s'élança sur lui comme un tigre en criant « Du pain, du pain !» Mais ses forces n'étaient pas égales à sa rage. Andri le repoussa et il roula par terre. Mais, ému de compassion, le jeune Cosaque lui jeta un pain que l'autre saisit et se mit à dévorer avec voracité, et sur la place même, cet homme expira dans d'horribles convulsions. Presque à chaque pas, il rencontrait des victimes de la faim. À la porte d'une maison était assise une vieille femme, et l'on ne pouvait dire si elle était morte ou vivante, se tenant immobile, la tête penchée sur sa poitrine. Du toit de la maison voisine pendait au bout d'une corde le cadavre long et maigre d'un homme qui, n'ayant pu supporter jusqu'au bout ses souffrances, y avait mis fin par le suicide. À la vue de toutes ces horreurs, Andri ne put s'empêcher de demander à la tatare: est-il donc possible qu'en un si court espace de temps, tous ces gens n'aient pas rien trouvé pour soutenir leur vie? En de telles extrémités, l'homme peut se nourrir des substances que la loi défend. On a tout mangé, répondit la tartare, toutes les bêtes. On ne trouverait plus un cheval, plus un chien, plus une souris dans la ville entière. Nous n'avons jamais rassemblé de provisions, l'on amenait tout de la campagne. Mais en mourant d'une mort si cruelle, comment pouvez-vous penser encore à défendre la ville? Peut-être que le voïvode l'aurait rendu. Mais hier matin, le polkovnik, qui se trouve à Boujani, a envoyé un faucon porteur d'un billet où il disait qu'on se défendit encore, qu'il s'avançait pour faire lever le siège et qu'il n'attendait plus que l'arrivée d'un autre polk afin d'agir ensemble. Et maintenant, nous attendons leur secours à toute minute. Mais nous voici devant la maison. Andri avait déjà vu de loin une maison qui ne ressemblait pas aux autres et qui paraissait avoir été construite par un architecte italien. Elle était en briques et à deux étages. Les fenêtres du rez-de-chaussée s'encadraient dans des ornements de pierre très en relief. L'étage supérieur se composait de petits arceaux formant galeries, et entre les piliers et aux encoignures se voyaient des grilles en fer portant les armoiries de la famille. Un large escalier en briques peintes descendait jusqu'à la place. Sur les dernières marches étaient assis deux gardes qui soutenaient d'une main leur hallebarde et de l'autre leur tête et ressemblaient plus à des statues qu'à des êtres vivants. Ils ne firent nulle attention à ceux qui montaient l'escalier, haut duquel Henri et son guide trouvèrent un chevalier couvert d'une riche armure, tenant en main un livre de prière. Il souleva lentement ses paupières alourdies, mais la tatare lui dit un mot et il les laissa retomber sur les pages de son livre. Ils entrèrent dans une salle assez spacieuse qui semblait servir aux réceptions. Elle était remplie de soldats, des chansons, de chasseurs, de valets, de toute la domesticité que chaque seigneur polonais croyait nécessaire à son rang. Tous se tenaient assis et silencieux. On sentait la fumée d'un cierge qui venait de s'éteindre, et deux autres brûlaient encore sur d'immenses chandeliers de la grandeur d'un homme, bien que le jour éclairât depuis longtemps la large fenêtre à grillage. Andri allait s'avancer vers une grande porte en chêne ornée d'armoiries et de ciselures, mais la tatare l'arrêta et lui montra une petite porte découpée dans le mur de côté. Ils entrèrent dans un corridor, puis dans une chambre qu'Andri examinait avec attention. Le mince rayon du jour, qui s'introduisait par une fente des contrevents, posait une raie lumineuse sur un rideau d'étoffe rouge, sur une corniche dorée, sur un cadre de tableau, et la tatare dit à André de rester là. Puis elle ouvrit la porte d'une autre chambre où brillait de la lumière. Il entendit le faible chuchotement d'une voix qui le fit tressaillir. Au moment où la porte s'était ouverte, il avait aperçu la svelte figure d'une jeune femme. La tatare revint bientôt et lui dit d'entrer. Il passa le seuil et la porte se referma derrière lui. Deux sièges étaient allumés dans la chambre, ainsi qu'une lampe devant une sainte image, sous laquelle, suivant l'usage catholique, se trouvait un prie-Dieu. Mais ce n'était point là ce que cherchaient ses regards. Il tourna la tête d'un autre côté et vit une femme qui semblait être arrêtée au milieu d'un mouvement rapide. Elle s'élançait vers lui, mais se tenait immobile. lui-même resta cloué sur sa place. Ce n'était pas la personne qu'il croyait revoir, celle qu'il avait connue. Elle était devenue bien plus belle. Naguère, il y avait en elle quelque chose d'incomplet, d'inachevé. Maintenant, elle ressemblait à la création d'un artiste qui vient de lui donner la dernière main. Naguère, c'était une jeune fille espiègle. Maintenant, c'était une femme accomplie et dans toute la splendeur de sa beauté. Ses yeux levés n'exprimaient plus une simple ébauche du sentiment, mais le sentiment complet. N'ayant pas eu le temps de sécher, ses larmes répandaient sur son regard un vernis brillant. Son cou, ses épaules et sa gorge avaient atteint les vraies limites de la beauté développée. Une partie de ses épaisses tresses de cheveux était retenue sur la tête par un peigne. Les autres tombaient en longues ondulations sur ses épaules et ses bras. Non seulement sa grande pâleur n'altérait pas sa beauté, mais elle lui donnait au contraire un charme irrésistible. André ressentait comme une terreur religieuse. Il continuait à se tenir immobile. Elle aussi restait frappée à l'aspect du jeune cosaque qui se montrait avec les avantages de sa mâle jeunesse. La fermeté brillait dans ses yeux couverts d'un sourcil de velours. La santé et la fraîcheur sur ses joues hâlées. Sa moustache noire luisait comme la soie. « Je n'ai pas la force de te rendre grâce, généreux chevalier, » dit-elle d'une voix tremblante. « Dieu seul peut te récompenser. » Elle baissa les yeux, que couvrirent des blanches paupières garnies de longs cils sombres. Toute sa tête se pencha, et une légère rougeur colora le bas de son visage. André ne savait que lui répondre. Il aurait bien voulu lui exprimer tout ce que ressentait son âme, et l'exprimer avec autant de feu qu'il le sentait, mais il ne put y parvenir. Sa bouche semblait fermée par une puissance inconnue. Le son manquait à sa voix. Il reconnut que ce n'était pas lui, élevé au séminaire, et menant depuis une vie guerrière et nomade, qu'il appartenait de répondre, et il s'indigna contre sa nature de cosaque. À ce moment, la Tata rentra dans la chambre. Elle avait eu déjà le temps de couper en morceaux le pain qu'avait apporté André, et elle le présenta à sa maîtresse sur un plateau d'or. La jeune femme la regarda, puis regarda le pain, puis arrêta enfin ses yeux sur André. Ce regard ému et reconnaissant où se lisait l'impuissance de s'exprimer avec la langue fut mieux compris d'André que ne l'eussent été de longs discours. Son âme se sentit légère, il lui sembla qu'on l'avait déliée. Il allait parler quand tout à coup la jeune femme se tourna vers sa suivante et lui dit avec inquiétude « Et ma mère, lui as-tu porté du pain ?»« Elle dort. Et à mon père ?»« Oh, je lui en ai porté. Il a dit qu'il viendrait lui-même remercier le chevalier. » Rassurée, elle prit le pain et le porta à ses lèvres. André la regardait avec une joie inexprimable rompre ce pain et le manger avidement. Quand tout à coup il se rappela ce fou furieux qu'il avait vu mourir pour avoir dérobé un morceau de pain, il pâlit et la saisissant par le bras, « Assez !» lui dit-il, « ne mange pas davantage. Il y a si longtemps que tu n'as pris de nourriture que le pain te ferait mal. » Elle laissa aussitôt retomber son bras, et déposant le pain sur le plateau, elle regarda André comme eût fait un enfant docile. « Ô ma reine !» s'écria André avec transport, « ordonne ce que tu voudras. Demande-moi la chose la plus impossible qu'il y ait au monde, je courrai t'obéir. Dis-moi de faire ce que ne ferait nul homme, je le ferai. Je me perdrai pour toi. Ce me serait si doux, je le jure par la Sainte Croix, que je ne saurais te dire combien ce me serait doux. J'ai 3 villages. La moitié des troupeaux de chevaux de mon père m'appartient. Tout ce que ma mère lui a donné en dot et tout ce qu'elle lui cache, tout cela est à moi. Personne de nos Cosaques n'a des armes pareilles aux miennes. Pour la seule poignée de mon sabre, on me donnerait un grand troupeau de chevaux et 3 000 moutons. Eh bien, j'abandonnerai tout cela, je le brûlerai, j'en jetterai la cendre au vent, si tu me dis une seule parole, si tu fais un seul mouvement de ton sourcil noir. Peut-être tout ce que je dis n'est que folie et sottise. Je sais bien qu'il ne m'appartient pas à moi qui ai passé ma vie dans la Setche de parler comme on parle là où se trouvent les rois, les princes et les plus nobles parmi les chevaliers. Je vois bien que tu es une autre créature de Dieu que nous autres et que les autres femmes et filles des seigneurs restent loin derrière toi. Avec une surprise croissante, sans perdre un mot et toute à son attention, la jeune fille écoutait ses discours pleins de franchise et de chaleur où se montrait une âme jeune et forte. Elle pencha son beau visage en avant, ouvrit la bouche et voulut parler. Mais elle se retint brusquement, en songeant que ce jeune chevalier tenait à un autre parti et que son père, ses frères, ses compatriotes restaient des ennemis farouches. En songeant que les terribles aporogues tenaient la ville bloquée de tous côtés, vouant les habitants à une mort certaine, ses yeux se remplirent de larmes. Elle prit un mouchoir brodé en soie, et s'en couvrant le visage pour lui cacher sa douleur, elle s'assit sur un siège où elle resta longtemps immobile, la tête renversée, et mordant sa lèvre inférieure de ses dents d'ivoire, comme si elle eût ressenti la piqûre d'une bête venimeuse. « Dis-moi une seule parole, » reprit André, la prenant par sa main douce comme la soie. Mais elle se taisait, sans se découvrir le visage, et restait immobile. « Mais pourquoi cette tristesse? Dis-moi, pourquoi tant de tristesse ?» Elle ôta son mouchoir de ses yeux, écarta les cheveux qui lui couvraient le visage et laissa échapper ses plaintes d'une voix affaiblie qui ressemblait au triste et léger bruissement des joncs qu'agite le vent du soir. « Ne suis-je pas digne d'une éternelle pitié? La mère qui m'a mise au monde n'est-elle pas malheureuse? Mon sort n'est-il pas bien amer? Ô mon destin, n'es-tu pas mon bourreau? Tu as conduit à mes pieds les plus dignes gentilshommes, les plus riches seigneurs des comtes et des barons étrangers et toute la fleur de notre noblesse. Chacun d'eux aurait considéré mon amour comme la plus grande des félicités. Je n'aurais eu qu'à faire un choix et le plus beau, le plus noble serait devenu mon époux. Pour aucun d'eux, ô mon cruel destin, tu n'as fait parler mon cœur. Mais tu l'as fait parler, ce faible cœur, pour un étranger, pour un ennemi, sans égard au meilleur chevalier de ma patrie. Mais pourquoi, pour quel péché, pour quel crime m'as-tu persécuté impitoyablement, ô sainte mère de Dieu? Mes jours se passaient dans l'abondance et la richesse. Les mets les plus recherchés, les vins les plus précieux, faisait mon habituelle nourriture. Et pourquoi? Pour me faire mourir enfin d'une mort horrible, comme ne meurt aucun mendiant dans le royaume. Et c'est peu que je sois condamné à un sort si cruel. C'est peu que je sois obligé de voir, avant ma propre fin, mon père et ma mère expirer dans d'affreuses souffrances, eux pour qui j'aurais 100 fois donné ma vie. C'est peu que tout cela. Il faut, avant ma mort, que je le revoie et que je l'entende. Il faut que ces paroles me déchirent le cœur, que mon sort redouble d'amertume, qu'il me soit encore plus pénible d'abandonner ma jeune vie, que ma mort devienne plus épouvantable et qu'en mourant, je vous fasse encore plus de reproches à toi, mon destin cruel, et à toi, pardonne mon péché, ô sainte mère de Dieu. » Quand elle se tut, une expression de douleur et d'abattement se peignit sur son visage, sur son front tristement penché, sur ses joues sillonnées de larmes. « Non, il ne sera pas dit, s'écria André, que la plus belle et la meilleure des femmes ait à subir un sort si lamentable. Quand elle est née pour tout ce qu'il y a de plus élevé au monde, s'incline devant elle comme devant une sainte image. Non, 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 tu ne mourras pas, je le jure par ma naissance et par tout ce qui m'est cher, tu ne mourras pas. Mais si rien ne peut conjurer ton malheureux sort, si rien ne peut te sauver, ni la force, ni la bravoure, ni la prière, nous mourrons ensemble. Et je mourrai avant toi, devant toi, et ce n'est que mort qu'on pourra me séparer de toi. Ne t'abuse pas, chevalier, et ne m'abuse pas moi-même, lui répondit-elle en secouant lentement la tête. Je ne sais que trop bien qu'il ne t'est pas possible de m'aimer. Je connais ton devoir. Tu as un père, des amis, une patrie qui t'appelle, et nous sommes tes ennemis. Eh, que me font mes ennemis, ma patrie, mon père ? Reprit André, en relevant fièrement le front et redressant sa taille droite et svelte comme un jonc du Dniepre. Si tu crois cela, voilà ce que je vais te dire. Je n'ai personne, 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 répéta-t-il obstinément, en faisant ce geste pour lequel un cosaque exprime un parti pris et une volonté irrévocable. Qui m'a dit que l'Ukraine est ma patrie? Qui me l'a donnée pour patrie? La patrie est ce que notre âme désire, révère, ce qui nous est plus cher que tout. Ma patrie, c'est toi. Et cette batterie-là, je ne l'abandonnerai plus tard, que je serai vivant, je la porterai dans mon cœur, qu'on vienne l'en arracher. » Immobile un instant, elle le regarda droit aux yeux, et soudain, avec toute l'impétuosité dont est capable une femme qui ne vit que par les élans du cœur, elle se jeta à son cou, le serra dans ses bras, et se mit à sangloter. Dans ce moment, la rue retentit de cris confus, de trompettes et de tambours. Mais André ne les entendait pas. Il ne sentait rien d'autre chose que la tiède respiration de la jeune fille qui lui caressait la joue, que ses larmes qui lui baignaient le visage, que ses longs cheveux qui lui enveloppaient la tête d'un réseau soyeux et odorant. Tout à coup, la tatare entra dans la chambre en jetant des cris de joie. « Nous sommes sauvés, » dit-elle tout haut hors d'elle-même. « Les nôtres sont entrés dans la ville, amenant du pain et de la farine et des aporogues prisonniers. » Mais ni l'un ni l'autre ne fit attention à ce qu'elle disait. Dans le délire de sa passion, André posa ses lèvres sur la bouche qui effleurait sa joue, et cette bouche ne resta pas sans réponse. Et le cosaque fut perdu. Perdu pour toute la chevalerie cosaque. Il ne verra plus ni la Sèche, ni les villages de ses pères, ni le temple de Dieu. Et l'Ukraine non plus ne verra pas l'un de ses plus braves enfants. Le vieux Taras s'arrachera une poignée de ses cheveux gris, et il maudira le jour et l'heure où il a, pour sa propre honte, donné naissance à un tel fils.